Voici votre actualité Radio Taïga, vos informations des territoires du Nord-Ouest, avec Raphaël Hamel.
Température beaucoup plus haute que la moyenne durant le mois de mai 2023. Feux de forêt et fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous retrouvons Armel Castenant, météorologue de sensibilisation aux alertes pour environnement et changement climatique Canada, pour nous parler de la situation météorologique durant le mois de mai au territoire du Nord-Ouest. Bonjour, Monsieur Castenant. À tous les jours du mois de mai, on a été au-dessus des normales quotidiennes à chaque jour. Est-ce que cela veut donc dire que ça a été le mois de mai le plus chaud des territoires du Nord-Ouest cette année?
Oui, donc le mois de mai, effectivement, très, très chaud à travers une grande partie du pays, notamment les territoires du Nord-Ouest. Je vois justement que la température était de 11,8 degrés, c'est la moyenne mensuelle. Et que la normale pour le mois de mai à Yellowknife, donc à l'aéroport, est de 4,6. Donc, on parle d'un départ de 7,2 degrés. Donc, c'est absolument en 81 ans de données à accumuler à l'aéroport. C'est le mai le plus chaud. Il faut aussi noter, par contre, que ça a été pas sans humidité, il y a quand même eu 14,5 millimètres de pluie et normalement on en voit à peu près 18,4. Donc on va dire que c'est à peu près normal pour le côté pluie, mais certainement c'est le fait que ça a été tellement chaud qui est le plus important.
Mmh. On parle souvent du changement climatique, mais quelquefois, il y a des phénomènes bien particuliers qui arrivent avec la météo. Est-ce qu'on a des explications concernant cette grosse vague de chaleur-là, pas juste qui se déroule au territoire du Nord-Ouest, mais comme vous l'avez mentionné, à travers tout le pays cette année?
Alors, c'est une très, très bonne question. On parle de l'attribution des changements climatiques à certains événements. Et pour moi, je vais dire que je pense que la communauté académique du côté recherche du climat va sûrement très fortement analyser ce qui s'est passé pendant le mois de mai, surtout pendant les dates centrales en l'envergure du 10 au 20 plus ou moins, 22 même, parce que pendant ces dates-là, on a vu un dôme de chaleur ou une crête très, très forte se bâtir sur l'ensemble du pays. Et c'est là où on a vu les températures de juillet ou de beaucoup plus tard dans la saison estivale qui ont dominé et donc ont fait des ravages comme on le ressent fortement en ce moment. Il y a eu plein de feux de forêt en Alberta, en Colombie-Britannique, au Saskatchewan et notamment aussi au territoire du Nord-Ouest. Et maintenant, on en voit aussi au Québec et en Nouvelle-Écosse. Donc, ça a été vraiment phénoménal de ce côté-là. Et donc, je pense qu'il va y avoir une étude qu'on appelle justement une attribution des changements climatiques pour voir à quel point les données aurait été différente dans un climat avant la révolution industrielle et pour donner un peu une statistique ou des probabilités comme quoi ça a été 100 fois, 200 fois ou un pourcentage de fois plus propice à ce qu'on a vécu récemment. Et donc voilà, l'autre chose à dire, c'est plus conceptuel et pas relié à mai en particulier, mais juste le fait que les latitudes nordiques au Canada ou n'importe où dans l'hémisphère nord ou sud sont en train de réchauffer beaucoup plus rapidement que la moyenne globale. Donc, c'est vrai pour l'ensemble du Canada parce qu'on est un pays nordique, mais encore plus vrai pour nos trois territoires qui subissent les changements de chaleur pour commencer notamment et ensuite d'autres choses vis-à-vis la polarisation des précipitations, la banquise côtière, bien sûr, qui font un très fort flot, etc. Donc oui, c'est absolument dans le concept auquel on s'attend, qu'on a déjà vu pendant maintenant plusieurs décennies et auquel on va témoigner dans les prochaines décennies à suivre.
Mm-hmm. Pour poursuivre sur les feux de forêt, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est assez tôt si on compare à d'habitude comme début de saison des feux de forêt cette année?
Oui, en gros, absolument, c'est très, très propice, c'est précoce plutôt cette année. Je pense que surtout pour le sud, parce que le sud, normalement, on voit les feux de forêt commençant surtout en milieu de juillet, et vraiment c'est les feux et donc la fumée, c'est plutôt fin juillet et août. Mm-hmm. Et là on a vu ça beaucoup plus tôt, donc le mois de mai et maintenant le mois de juin, donc c'est absolument plus tôt que la normale. Ce qui est aussi vrai, c'est que dans les coins plus nordiques, que ce soit Yukon, l'Alaska, le territoire du Nord-Ouest, c'est souvent un peu plus tôt que ce qu'on voit dans les provinces. Donc peut-être que le décalage est moins fort, mais il est quand même très très tôt, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Ça, c'est évident.
Mm-hmm. Tout dépendant des vents qui sont favorables à la fumée se disperse ou pas, quels sont les facteurs là, qui contribuent à la fumée?
Alors, plusieurs. Donc, la sécheresse donne des conditions vraiment fortes pour le type de feu auquel on assiste. Donc, des feux qui sont très, très grands. On parle de certains feux étant les plus grands dans leurs provinces respectives. Donc, c'est quand même des panaches de fumée qui sont excessivement gros, fort, où cette fumée est à la fois dans les basses élévations de l'atmosphère et aussi rentre dans l'atmosphère moyenne, donc peut entreprendre des grosses distances portées par le courant G jusque dans l'est du pays, maintenant même jusqu'en Europe. Pareillement, on voit souvent la fumée, de la Sibérie atteindre notre territoire. Excusez-moi, je me sens un petit peu d'eau.
Pas de problème. Mais c'est ça, justement. Là, j'allais poursuivre là, ma question qui suivait, c'était la fumée peut impacter jusqu'à quelle distance? Donc là, on parle de la fumée qui traverse les océans. C'est possible?
Oui, absolument. Souvent, on voit la fumée faire la moitié du tour de la Terre. On n'a souvent pas une concentration aussi forte que si on est plus près de la source, bien sûr. Là, on a vu, juste pour vous donner un peu l'exemple, des concentrations de particules fines, donc 2,5 microns et plus bas, donc ce qui est le plus nocif pour la santé humaine, animalière. C'est vraiment des concentrations de au-delà de 100-200 microgrammes par mètre cube. Donc c'est vraiment très très fort, parce qu'on pense à même 25 microgrammes étant un seuil fictif mais important pour dire que en fait au-delà de 25 microgrammes par mètre cube, c'est problématique pour surtout les personnes vulnérables, mais même les adultes en bonne forme devraient commencer à penser à ne pas faire de l'exercice dehors, par exemple, ou à bien conserver l'air propre dans sa maison, pas garder les fenêtres ouvertes, etc. Donc là, on était dans des conditions, et on l'est encore pour certaines régions, notamment le sud du territoire du Nord-Ouest, dans des conditions où les concentrations sont bien au-delà de 25 microgrammes, et ces fumées vont continuer à se diriger, mm-hmm, dans votre territoire, parce que on a beaucoup de vent de l'ouest ou même du sud-ouest dans le nord des provinces, des prairies, et donc ça continue un panache qui va pas s'arrêter pendant certainement des semaines, voire des mois.
Mais c'est ça, là, nous ici, souvent à la radio, tu sais, on dit la radio, on dit la météo, excusez-moi, puis là, souvent, il y a des alertes de fumée. Donc, c'était ma dernière question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait en tant que personne, que résident, lorsqu'il y a de la fumée dans l'air? Là, vous avez dit, on ne sort pas dehors pour faire de l'exercice pour les personnes plus à risque. Est-ce que ce serait potentiellement, on pourrait peut-être commencer à penser à porter des masques lorsqu'on sort à l'extérieur?
Oui, voilà. Donc, si ce qu'il faut faire, c'est suivre la cote Air Santé. Donc, c'est sur notre site web très très facile à trouver. Donc, vous allez voir Yellowknife, vous allez trouver la cote Air Santé. On va voir qu'aujourd'hui, par exemple, mardi, on a un risque élevé à 8. Donc, après, on se demande ce que ça veut dire relatif à la santé et quand est-ce que la bonne... le bon air filtré ou bien non intense va où le risque est plus bas, et donc on va voir qu'il va tomber dans le faible seulement mercredi soir. Donc pour mardi soir et pendant la nuit et mercredi, on a un risque élevé, demain c'est modéré et puis éventuellement faible en soirée. Donc ça, c'est déjà un indice que s'il y a des changements de comportement à faire, c'est pour l'instant, c'est dans le court terme, et qu'on espère que demain soir, les choses soient plus réduites. Mais c'est exactement ça, il faut planifier sa journée accordément. Et si on a un risque élevé ou même très élevé, à plus que 10 sur l'échelle de 1 à 10, c'est là où il faut, même si on est... La population générale, réduire ou réorganiser les activités exténuantes en plein air surtout. Et puis, si on commence à éprouver des symptômes comme la toux ou une irritation de la gorge, c'est là où il faut vraiment s'attarder à trouver un endroit, si c'est pas chez soi, où il y a de l'air filtré pour pouvoir mitiger les impacts. Et si on est parti malheureusement des déterminer si on est vulnérable ou pas, c'est vraiment les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons ou les jeunes enfants, les personnes qui travaillent à l'extérieur aussi, parce que voilà, ils vont pas être à l'intérieur pour respirer l'air filtré, les exercices intenses dehors, bien sûr, et les personnes qui sont justement déjà avec des problèmes de santé chronique ou une maladie comme le cancer, le diabète, les personnes avec des problèmes de santé mentale et les problèmes pulmonaires ou cardiaques, parce que justement, ce sont des particules qui peuvent rentrer dans nos poumons et éventuellement dans le système sanguin. Donc, il faut prendre ça en conséquence de notre comportement, de ce qu'on veut faire dehors ou pendant la journée ou les prochains jours.
Donc, bien important de rester à l'affût de ces symptômes et être conscient de sa situation. Dernière petite question que j'ai pour vous rapidement, là. Je sais que c'est très difficile de faire des grosses prévisions pour l'été, pour le futur, mais il y a plusieurs articles de partout à travers tout le pays qui dit que ça va être un été très difficile en termes de feux de forêt et de fumée. À quoi on peut s'attendre?
Oui, j'ai envie de dire que le futur est pas super du fait que notre à court terme pour mi-juin, mi-juillet, c'est de voir des probabilités très très fortes pour l'ensemble du Canada de voir des températures élevées donc dans les prochaines semaines, et pareillement quand on regarde le mois ou la saison, donc juin, juillet et août, on a pareillement des fortes probabilités, notamment pour le sud ou les deux tiers de votre territoire, incluant le nord des provinces des Prairies, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, etc., etc., pour encore une fois des températures plus élevées. Donc, est-ce qu'on va avoir des prévisions de figer un petit peu? Je ne sais pas. Mais justement, on va essayer de voir ça au plus court terme.
C'est donc évidemment une situation qu'on va suivre quotidiennement, comme on le fait toujours à la météo. Nous étions avec Armel Castenor, météorologue de sensibilisation aux alertes pour environnement et changement climatique Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Très, très, très apprécié. Et comme on dit, on va y aller une journée à la fois pour ce qui est de la météo. On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Merci.
Super, ben c'est avec gros plaisir. Merci beaucoup.
C'était vos informations avec votre journaliste IGL, Raphaël Hamel.